RCF.
Angle, bonjour. Les catacombes romaines, racines de la ville éternelle, c'est le thème de Grand Angle aujourd'hui, en partenariat avec la revue Le Monde de la Bible. Alors, l'église des catacombes, c'est un peu notre préhistoire, les débuts du christianisme, le commencement d'une église universelle enracinée à Rome, ville éternelle. Que sait-on vraiment des catacombes? Qui vivait? Que vivaient les premiers chrétiens persécutés? Comment ont-ils organisé les premiers cultes? Eh bien, nous en parlons avec mes invités en studio. Dominique Pierre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, bibliste, spécialiste d'art sacré. Vous signez dans le numéro du Monde de la Bible un article « Noé, Jonas et Daniel, héros du premier art chrétien » avec un point d'interrogation. On verra pourquoi il y a un point d'interrogation. On verra aussi ce que font Noé et Jonas dans cette barque. Marie-Françoise Basselet, bonjour. Vous êtes professeur émérite, vous avez enseigné l'histoire des religions de l'Antiquité à la Sorbonne, spécialiste incontesté des premiers siècles du christianisme et des persécutions. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, le dernier étant un très beau livre, Jésus, dictionnaire historique des évangiles, paru chez Omnibus en 2017. Et dans ce numéro du Monde de la Bible, eh bien, vous évoquez les catacombes au-delà des mythes et des légendes. On va en parler. Aurélien Caillot, bonjour. Vous êtes archéologue, vous préparez une thèse à l'Institut Pontifical d'Archéologie Chrétienne à Rome et aussi à l'École Pratique des Hautes Études à Paris. Vous évoquez donc dans la revue ce que révèlent les épitaphes et les images funéraires dans les catacombes. Et puis avec nous par téléphone de votre Suisse, Jean-Michel Spieser, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien de l'art et archéologue, professeur émérite à l'Université suisse de Fribourg. Vous êtes spécialiste de l'Antiquité tardive. Votre dernier livre nous éclairera « Images du Christ des catacombes au lendemain de l'iconoclasme » paru chez Dross. En 2015, vous nous présenterez un énigmatique Christ juvénile. Les catacombes, racines de la ville chrétienne, eh bien, on en parle sur Grand Angle, c'est tout de suite sur RCF.
RCF, Grand Angle, présenté par Christophe Hénin.
Les catacombes, ça nous fait toujours un petit peu rêver, peut-être même imaginer des choses qui sont complètement décalées par rapport à la réalité. Dominique Pierre, comment le monde de la Bible s'est intéressé à ce sujet et qu'est-ce qu'on peut en attendre? On a discuté pendant une heure, mais dites-nous un peu quel intérêt.
Le monde de la Bible, c'est une revue qui s'intéresse évidemment au départ à tout ce qui est le monde biblique. Mais plus largement à ce qui est aussi toute la culture chrétienne issue de ce monde biblique et notamment les débuts du christianisme et son évolution. Et évidemment, ce monde, ce que l'on connaît, beaucoup de choses que l'on connaît des premiers temps du christianisme, eh bien, par l'archéologie, par l'art, depuis différentes périodes, on l'a perçu à travers l'art funéraire notamment à travers les catacombes. Donc c'est un sujet qui a fait beaucoup rêver, beaucoup imaginer, entre l'histoire, les mythes, l'imagination, il y a des frontières qui sont difficiles, mais je crois il y a des spécialistes qui pourront en parler très bien.
Basselet va nous en parler.
Et donc c'est vraiment un sujet qui est intéressant pour voir qu'est-ce qu'on peut retenir, qu'est-ce que ces cimetières souterrains nous disent aussi des premiers temps de l'Église et des premiers temps de la vie chrétienne. C'est un sujet qui méritait au moins un bon numéro du Monde de la Bible.
Voilà, avec aussi le fait d'avoir conservé toutes ces traces, c'est important. Il y a quelque temps, vous étiez étudiant à Rome. Qu'est-ce qu'on peut voir? Oui, quelque temps, je vois que vous approuvez. Qu'est-ce qu'on peut voir des catacombes?
Alors, on peut voir, il y a énormément de couloirs, de cimetières souterrains à Rome. Alors, toutes ne sont pas accessibles, ou à part à des spécialistes, des gens qui travaillent vraiment dans ce domaine-là. Il y en a quelques-unes qui sont accessibles, catacombes de Saint-Sébastien, catacombes de Calixte, catacombes de Priscille, etc. Et dans certaines, on a encore, on peut voir aussi, notamment, moi c'est mon sujet d'intérêt, notamment quelques images qui datent des 3e, 4e siècle à peu près. Donc il y a encore quand même pas mal de choses auxquelles on peut accéder, mais c'est pas forcément toujours à la portée du grand public. Il faut souvent avoir un guide, quelqu'un qui nous aide à découvrir tout ça. Mais c'est
pour la conservation et la compréhension.
Exactement,
aussi, sans doute.
Ouais.
Marie-Françoise Basselet, alors les catacombes, elles ont alimenté les légendes, j'ai presque envie de dire les fantasmes.
C'est méchant de dire tout ça, une mémoire.
Oui. Alors, une de mémoire. Quoi s'agit-il véritablement ?
Il s'agit, je crois pour moi, d'un lieu de mémoire des premiers chrétiens, des premières générations chrétiennes de Rome. Et pourquoi c'était forcément des lieux souterrains, ce lieu de mémoire ? Il faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas d'art monumental chrétien des 3 premiers siècles. Pas pour autant que les chrétiens étaient persécutés, mais comme le montre très bien le film sur Paul qui vient de sortir, ils vivaient dans des maisons, donc il n'y a pas de reste.
Vous appelez des maisonnées, finalement.
Oui, je parle d'église de maisonnées, mais ça, le film sur Paul rend très bien compte. La maisonnée de Priscilla et d'Aquilas. Ils sont dans des maisons, l'État n'intervient pas, ils sont relativement tranquilles, ou menacés ou tranquilles, ça dépend, mais il n'y a pas de restes monumentaux. Donc, quand l'église est devenue officielle, à l'époque de Constantin, et après, encore bien plus tard, à la fin du Moyen-Âge, à l'époque moderne, il fallait trouver des lieux où investir la mémoire chrétienne. Et comme toujours, c'était des lieux souterrains. Quand il n'y a pas de monument, quand il n'y a pas d'église, au sens monumental du terme, quand il n'y a pas de temple, qu'est-ce qu'on va trouver ? Des arbres, des grottes, des citernes, des choses minérales, des choses impérissables, des choses immémoriales. Et par ce marché, dans le cas précis donc des catacombes de Rome, qui sont toujours restées en partie, enfin pour certaines d'entre elles, un tout petit peu accessibles, il y a le fait de révélation. Vous n'avez pas parlé des textes chrétiens, c'est quand même là notre principale source, les textes chrétiens. Et qu'est-ce qu'ils disent au IVe siècle, quand il s'agit de retrouver une mémoire ancienne ? C'est toujours une vision qui vous dit quelque chose d'enfoui dans la terre. Donc c'est les ancêtres, c'est l'immémorial, c'est la mémoire.
Sur les racines.
Oui, à la fois la mémoire et les racines qui remontent. Donc, ça vient toujours du sol. Et enfin, on l'a dit, il y a le romantisme. On avait de belles histoires de martyrs. Où les situer ?
Là, c'est là où je parle un peu de légende, c'est-à-dire que c'est essentiellement des sépultures, les catacombes.
C'est des nécropoles.
Voilà.
Je pense que rien ne l'expliquait mieux que moi, mais ce sont des nécropoles souterraines,
oui,
qui répondent à un problème démographique. Inhumer le plus de gens possible, dans le moins d'espace possible.
Proximité.
Non, pas forcément, quand le sol est friable. C'est ça, hein, finalement, une catacombe.
Mais ce n'est donc pas les traces d'une église cachée de chrétiens.
Souterraine. Et maintenant, quand on parle d'église et catacombe, d'église souterraine, c'est église clandestine, église persécutée. Alors en fait, en Chine, par exemple, quand on en parle, ça c'est l'image moderne. Et qui est née de quoi ?
C'est figuratif.
C'est figuratif.
Ils ne sont pas dans les catacombes.
Qu'une église souterraine est une église clandestine, donc une église persécutée. Ce qui n'est pas le cas de l'église romaine pour la plupart des 3 premiers siècles. Elle n'est persécutée qu'une année par-ci par-là à de rares périodes, sauf tout à la fin, et elle n'a jamais vécu cachée. Le seul évêque de Rome qui a été arrêté et mis à mort ensuite, arrêté dans une catacombe, dans un cimetière souterrain, on n'est même pas sûr que c'est l'évêque Sixte, le diacre Laurent, on n'est même pas sûr que c'était un cimetière souterrain. Donc, on a fantasmé ensuite là-dessus. Et paradoxalement, il y a des catacombes chrétiennes, des cimetières chrétiens, qui sont plutôt, on le voit dans les textes, justement, les textes officiels, des signes paradoxaux de prise d'importance des communautés chrétiennes qui peuvent s'installer, des enclos funéraires, sépultures collectives, sépultures communautaires, comme on voudra. Donc, c'est une image paradoxale, en fait. De l'église persécutée.
Alors on va voir tout le sens aussi que ça peut avoir par rapport à la foi chrétienne, ces catacombes. Aurélien Caillot, oui, le travail des archéologues, c'est véritablement de retrouver un peu comment étaient organisées ces catacombes, ces nécropoles.
Alors oui, les premières personnes qui s'attachent à la redécouverte des catacombes, c'est plutôt au XVIe siècle, c'est des personnes comme Antonio Bosio. Il faut savoir qu'à l'époque, on est en pleine période de contre-réforme, contre le protestantisme. Donc on va utiliser ces épitaphes, ces ossements,
la figure des martyrs,
donc les reliques, les images, les peintures, pour lutter contre les nouvelles théories du protestantisme. Et en fait, finalement, les archéologues, les érudits, vont se traîner un peu ce bagage-là apologétique, pendant des siècles et parfois un peu jusqu'à maintenant. C'est à partir du 19e siècle de De Rossi qu'on commence à dissocier un peu le phénomène de piété avec lequel on s'attaquait à ces... On explorait ces monuments, on les interprétait, ces images, ces textes.
Comme des lieux de résistance.
En utilisant les textes bibliques, en utilisant les textes des premiers pères de l'Église, qui ne parlent jamais de catacombes, parce qu'en fait, il y a, pour Rome, au 3e, 4e siècle, on a très peu de sources, ou quasiment pas. Justin, voilà. Mais les restes des sources qu'on a, c'est à Alexandrie, c'est à Constantinople et c'est pas à Rome. Donc finalement, les sources véritables pour qui témoignent de la vie de ces premières communautés chrétiennes, ce sont les sources archéologiques et pas les sources textuelles. Et parfois, ces sources archéologiques ou épigraphiques remettent en cause ce qui est dit par les évêques qui nous écrivent. Et donc finalement, on a souvent cherché à interpréter avec ces textes de polémistes, d'évêques.
Les premières images, c'est un peu de magnifier ces premiers siècles, c'est-à-dire d'en faire vraiment une église effectivement persécutée.
Oui, voilà, parce qu'on est dans une quête des origines qui est problématique. Voilà.
Quand l'église est triomphante. Voilà. C'est paradoxal,
encore,
ça.
Elle n'est pas tout de suite triomphante.
C'est pas contemporain.
D'accord. Donc ça veut dire qu'au début, c'est vraiment la vie simplement des communautés qui, parce que d'ailleurs dans les catacombes, il n'y a pas que les chrétiens qui sont. Si. Alors là, la discussion.
Pardon.
Alors Marie-Françoise Bosselez, d'après vous, toutes les communautés accèdent à ces.
C'est des sépultures publiques.
Alors, cimetière public. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord.
C'est un peu plus problématique que ça. Disons qu'effectivement, depuis le début, on a considéré que c'était des cimetières dans un souci de commémoration et de devoir de mémoire, de quête des origines. On a considéré que c'était des cimetières de l'Église des origines persécutées, etc. Et encore aujourd'hui, le discours officiel des professeurs de l'Institut pontifical, c'est que les catacombes sont chrétiennes. Après, certains professeurs comme Philippe Pergola apportent des nuances.
Qui interviennent dans le monde de la Bible.
Bon voilà, qui fait un très bon article là-dessus, très didactique et qui résume très bien la situation. Beaucoup de catacombes naissent d'hypogées privées. Par exemple, dans la catacombe de Domitille, sur une dizaine d'hypogées, seuls deux sont assurés d'être chrétiens, les restes étaient païens. Donc finalement, il y a toute une série de petites hypogées, de petites sépultures comme ça qui s'agrègent et qui, au fur et à mesure, vont se recouper et former un peu le noyau de ces catacombes qui, par la suite, vont être christianisées.
Et elles se prolongent au-delà, d'ailleurs, de la persécution et de l'époque clandestine.
C'est-à-dire que donc
jusqu'au début du 5e siècle, c'est les grosses, jusqu'au sac de Rome, on va dire, c'est la grosse période d'utilisation des catacombes. Après, ça devient plus sporadique et on va commencer à enterrer plutôt dans les basiliques suburbaines en surface, qui ont été construites par Constantin au début du 4e siècle, dans la première moitié du 4e siècle, avant de, face à l'insécurité, d'enterrer à l'intérieur de la ville, parce qu'il y a les guerres byzantines contre les Goths, contre les Lombards, etc. Donc il y a une grosse insécurité.
Alors on va revenir au sens de ces catacombes. Simplement, Jean-Michel Spizer, vous nous écoutez depuis tout à l'heure, vous allez intervenir par téléphone. Ce qui est surprenant aussi, c'est une très bonne conservation finalement de l'expression picturale dans les catacombes.
Surprenant, oui et non. Enfin, d'abord, bon, je m'inscris tout à fait en accord avec ceux qui viennent être dit sur la date de ces peintures, sur la durée pendant laquelle ces catacombes ont été utilisées. C'est plutôt leur découverte à partir du 16e siècle qui a endommagé certaines peintures à cause de l'exposition à l'air. Il y a un parallèle, mais justement, qui montre la chance qu'ont eu les catacombes d'être dans un monde souterrain et bien à l'abri, puisque à peu près au même moment où on a découvert les catacombes, en gros, on a aussi découvert des peintures romaines qui étaient un peu plus en surface, je pense à celles de la Domus Aurea qui ont donné naissance à ce qu'on appelait les grotesques et qui se sont effacées parce qu'elles ont été brutalement mises à l'air, si j'ose dire. Tandis que les catacombes, dans leur atmosphère confinée, se sont mieux préservées.
Alors on verra avec Dominique Pierre pourquoi Noé et Jonas font partie de ces représentations. Vous-même, vous avez travaillé, Jean-Michel Spieser, sur la représentation du Christ qui est d'abord assez tardive et un peu surprenante.
Tardive, là aussi.
Sur l'échelle des catacombes.
Elle n'est pas plus tardive que les autres peintures chrétiennes. Ce ne sont pas seulement les catacombes, c'est en général un art chrétien apparaît seulement au début du 3e siècle,
quand les communautés
chrétiennes commencent à avoir une certaine importance, elles se sentent plus sûres d'elles-mêmes. Et ce n'est pas un hasard que les peintures des catacombes sont à peu près contemporaines des autres peintures anciennes chrétiennes découvertes à l'autre bout du monde romain, à Dura Europos en Syrie, également dans la première moitié du 3e siècle. Donc, si vous voulez, les images du Christ, au moins quelques-unes d'entre elles, on peut dire qu'elles apparaissent en même temps que le reste de l'art chrétien, que l'art chrétien qui se développe avec, en particulier, mais là, mon collègue va en parler, des thèmes pris à l'Ancien Testament, il va nous dire pourquoi. Ce qu'on peut remarquer effectivement, c'est que dans ces premières peintures chrétiennes, et le Christ est rarement représenté. Et l'insistance dans le numéro du Monde de la Bible et cet article consacré à Jonas et aux autres héros, si j'ose dire, de l'Ancien Testament, montre bien qu'on préférait représenter plutôt dans ce premier temps des peintures de l'Ancien Testament. Le Christ commence à être représenté dans des exemples de la résurrection de Lazare en particulier. J'ai pensé qu'il était représenté surtout dans des scènes où il devenait tout à fait indispensable, sinon la scène n'aurait pas été comprise. Par exemple, les premières guérisons du paralytique, qui sont aussi représentées dans la catacombe de Calixte, qui est la plus ancienne, en tout cas la plus ancienne décorée, le paralytique est représenté tout seul. Un homme portant un lit sur ses épaules, c'était tout à fait clair.
Ça suffit pour comprendre le passage de l'Évangile.
Et c'est surtout, je dirais, à l'époque de Constantin, que les images du Christ se sont développées. Il y en a eu avant d'autres, là, je n'entre pas trop dans les détails, mais ces images se développent essentiellement à l'époque de Constantin, et alors plutôt sur des sarcophages.
Alors, on verra après comment effectivement le Christ est représenté à ce moment-là. Dominique Pierre, donc, Jonas, Noé, des épisodes de l'Ancien Testament, mais qui parlent malgré tout de la foi chrétienne. Expliquez-nous.
Oui, alors c'est assez étonnant parce que le nombre de sujets utilisés dans les premières images chrétiennes est relativement limité. Et moi, ce qui m'a toujours frappé quand on lisait des études, c'est que justement, il y avait des fois des regards du 20e siècle ou des débuts du 21e, mais c'était plus le regard du 20e siècle, qui séparait vraiment les images entre images de l'Ancien Testament et images du Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'on avait la perception de la Bible qu'on a aujourd'hui, qui servait à relire les images de cette époque-là. Alors qu'en fait, il y a une lecture de la Bible qui doit être totalement différente et surtout une façon de la vivre et de la vivre au niveau de la foi.
On est avant tous les conciles, donc il y a plein de choses qui n'ont pas encore été tranchées.
Et ces images, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces images sont très limitées. Et c'est aussi ce qu'évoquait tout à l'heure Marie-Françoise Ballet, c'est de faire ce lien aussi entre ce qu'est la prédication et le catéchuménat, tout le travail d'éducation de la foi de cette époque-là qui peut sans doute éclairer en fait ces images et nous faire comprendre, et notamment les images de l'Ancien Testament où en fait on se sert d'un épisode de l'Ancien Testament pour montrer que il est une annonce, il est une figure de ce que va être le salut apporté par le Christ. Et donc ces images, en fait, elles sont intéressantes parce qu'on les retrouve alors sur les peintures des catacombes, alors même si des fois c'est un petit peu plus tardif sur certains sarcophages, et elles sont mélangées. On peut trouver justement des images du Nouveau Testament, des images de l'Ancien Testament. Et c'était Paul Beauchamp qui disait, en fait, c'est un peu comme des jeux de dominos. Ça pourrait se combiner dans tous les sens parce que c'est alors c'est mon sentiment, c'est que ces images, en fait, elles sont polysémiques. C'est-à-dire qu'elles évoquent à la fois un épisode biblique, mais en même temps, si vous regardez le texte biblique, elles n'ont rien à voir avec ce texte biblique. C'est pas une illustration comme aujourd'hui, on mettrait la Bible en image. Hein, elles sont très très simples. C'est un schéma très très limité, très très succinct. Et puis, en fait, d'une certaine façon, moi, c'est ce qui m'a frappé, c'est que elles se ressemblent d'une certaine façon. Noé qui sort de, qui est dans l'arche, ou Jonas qui sort de, qui sort de la gueule de la baleine, Daniel qui sort de la fosse aux lions, les anges, les Hébreux dans la fournaise, c'est quasiment le même schéma simple. Et qui peut rappeler d'une certaine façon aussi ce qui est évoqué, ce qui est dit aussi du baptême chrétien. C'est-à-dire que on a un lien entre et de la résurrection du Christ, hein, et par d'abord la résurrection du Christ évidemment, et par transposition au baptême chrétien.
Marie-Françoise Basselet.
On a cherché aussi le familier et l'usuel. Par exemple, la représentation que donne le monde de la Bible, de Noé sortant de l'arche sous forme d'un coffre. Elle est déjà popularisée en Asie mineure, l'actuelle Turquie, par des monnaies donc les cités que les gens avaient en main, païens et chrétiens, tous pareils, dans les années 230, dans ce milieu du 3e siècle. Donc on n'a pas cherché à dépayser les gens, non plus à le choc de révélation chrétienne, on a travaillé sur du familier.
Ça veut dire qu'il n'y a pas véritablement de séparation entre ce qui
c'est
se passe.
C'est polysémique, comme l'a très bien dit.
Voilà, ce qui se passe
c'est
en sous-sol et ce qui se passe dans
non,
la vie.
Absolument pas, mais il ne se passe rien en sous-sol. On enterre les morts, puis on va les célébrer une fois par an, c'est tout. Hein.
Alors, Aurélien Caillot, allez-y.
Juste une précision là-dessus. C'est pas nécessairement. Il y a cette histoire de Noé et du Kibotos, mais il y a aussi l'histoire de Callion. Voilà, c'est inspiré d'un mythe païen. C'est inspiré
d'un mythe païen.
Le mythe du déluge est un mythe grec aussi.
Est un mythe un peu universel d'une certaine manière.
Il est grec.
Il y a ce mythe de Callion et Pyra, je ne sais plus ça.
Pyra.
Qui effectivement vont après un déluge vont repeupler la terre et ils vont être dans une arca, un kibotos. Et c'est finalement arca, ce qui veut dire coffre. Et finalement, c'est comme ça qu'est décrit l'arche dans la Bible. C'est un coffre. Le Dieu met le couvercle dessus. Et ce coffre est représenté parfois avec une serrure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le terme arca, en latin, désigne aussi le sarcophage. Donc, en contexte funéraire, c'est intéressant.
Alors, vous avez travaillé, Aurélien Caillot, sur les épitaphes et les images funéraires. Il y a à la fois beaucoup de matériaux et souvent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des répétitions.
Énormément. Alors,
beaucoup de matériaux, pas beaucoup, qu'est-ce que vous diriez?
Alors, on a quand même 40 000 inscriptions qui ont été recensées dans un corpus. Évidemment, par rapport au nombre de sépultures, de gens qui ont été enterrés à droite, à gauche à l'époque, finalement, on a, on va dire, 18%. De ce qu'on devrait avoir.
C'est dû aux détériorations,
c'est
au vandalisme.
C'est dû à l'urbanisation surtout de Rome. Ouais. C'est dû effectivement au vandalisme qui a lieu dès l'Antiquité avec certains barbares christianisés qui vont déjà chercher des reliques, mais surtout après au XVIIe siècle, les corpi santari qui vont ouvrir les tombes dès qu'ils voyaient une palme, dès qu'ils voyaient une colombe avec une palme, une couronne, etc.
Voilà, la palme étant le signe du martyr. Hein.
Pour eux. Eux le considéraient comme ça, mais les chrétiens comme les païens avaient ce signe sur leur tombe parce que c'était un symbole agonistique qui représentait, comme la couronne, qui représentait la victoire sur la mort ou avoir conduit une bonne vie. Donc, donc il y a eu une spoliation de ces catacombes-là, de beaucoup de catacombes au XVIIe siècle, pour chercher des reliques de martyrs.
Il en reste 18% qui permettent malgré tout.
Malgré tout, donc 40 000 inscriptions. Moi, dans ma thèse, je devais en étudier 5 500. Finalement, j'ai étudié à peu près 1 500, ce qui est déjà pas mal. Beaucoup de fragments, évidemment, parce que certaines ont été donc enlevées pour chercher les reliques ou pour remettre d'autres gens à l'intérieur. Parfois, elles ont été déplacées et remises à un autre endroit, ce qui pose de gros problèmes pour les datations, parce qu'on n'est pas sûr que à cette dalle qui est à cet endroit-là, elle était bien là, à cet endroit-là, dès le début, c'est qu'elle n'a pas été bougée. C'est finalement très rare les galeries qu'on sait être intactes, parce qu'elles n'ont pas été touchées jusqu'à nos jours. Et voilà, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a.
Chapitre, début de la vraie vie. Les pages d'un nouveau livre nous attendent à la sortie. Mais parlant de vivre, qu'en est-il du répit? Oh, avant que la ruée vers l'or nous enivre, avant que le temps nous défie, écoute ça.
On voudrait bien que ce chemin pour eux. Cherche, trouve, mais par où commencer? Et que faire quand tout ce qu'on trouve nous coupe l'envie d'avancer? Et ce n'est que la fin d'une classe, la terminale d'un parcours. T'inquiète, la chance a sa classe, on s'incube parfois une réserve, chacun son tour. Yeah.
On trouvera bien notre chemin pour
Corneille qui chante Rome sur RCF, les catacombes, racines de la ville éternelle. Eh bien, nous en parlons avec Dominique Pierre, Marie-Françoise Basselet, Aurélien Caillot et Jean-Michel Spizer.
Grand angle, Christophe Héningue.
Alors, on évoquait cette histoire des catacombes. J'ai presque envie de dire ces histoires, tellement il y en a. Et j'ai l'impression, Marie-Françoise Basselet, que sur les 3-4 premiers siècles de l'ère chrétienne, ce sont vraiment des périodes très très différentes.
Non, je pense que c'est absolument une continuité avec des deux phases. Une phase effectivement de relative obscurité des chrétiens de Rome, si c'est ce que vous voulez me faire dire. Encore une fois, je renvoie au film qui vient de sortir sur Paul, qui rend bien compte de ce que pouvait être la vie d'un groupe chrétien dans une grande ville, Alexandrie, Éphèse.
Et en cela, Rome est un peu comme toutes les villes du bassin méditerranéen.
Les grandes villes, les métropoles, entendons-nous. Et encore une fois, on pourra en discuter avec Aurélie, mais qu'est-ce qui se passait dans les catacombes? On enterrait les morts tous les ans, donc on célébrait le Refrigeria ou une fête funéraire, mais ce n'était pas un lieu ni de culte. On n'a pas de témoignage.
Pas avant le culte des martyrs.
Non, pas avant le culte des martyrs, à l'époque officielle, c'est ça le paradoxe. Tant que l'Église est censée, tant que les chrétiens, il faut aussi revenir sur leur statut. Les chrétiens sont frappés d'interdits légaux, mais ils ne sont pas systématiquement poursuivis. Donc c'est pas une clandestinité.
Parce qu'au moment où ils ne troublent pas l'ordre public, voilà. Pour dire vite avec une formule moderne.
Il n'y a pas de manifestation extérieure. On ne rentre pas dans les maisons, ce que montre bien le film aussi d'ailleurs. Et par-dessus marché, la structure maisonnée, elle les protégeait. Les rafles étaient impossibles. C'était des petits groupes isolés qui noyautaient la cité. Donc, ce qui montre très bien que les catacombes ne sont pas un lieu de culte clandestin, c'est l'évolution de celle de Saint-Sébastien. Finalement, au milieu du IIIe siècle, on en a fait un lieu de mémoire pour les apôtres Pierre et Paul, attesté par des graffitis tout autour. Mais à ce moment-là, c'était un lieu de culte aérien, un lieu de culte funéraire aérien. Au moment où la catacombe est, comment dire, fermée, désaffectée et nivelée. Donc, des petits groupes fin du 1er, 2e siècle. Comme le film en rend assez bien compte de ce point de vue-là. Et puis au IIIe siècle, donc, un essor, ça c'est vrai, que montre tout, des moyens d'expression, de l'aide. On a un état des lieux de l'Église de Rome en 250 avec le nombre de prêtres, le nombre de diacres, les 1500 assistés, pauvres, pris en assistance. Donc là, il y a des moyens. Et l'aménagement donc d'enclos funéraires, comme la catacombe du Caliste, à bon sens, fait partie de ce développement.
Développement qui aussi, vous soulignez dans votre article, me semble-t-il, ou c'est dans un autre article du Monde de la Bible, où on commence aussi à célébrer avec, non pas le culte des morts, hein, bien évidemment, mais sur un autel où il y a la présence de reliques.
Alors, moi, je ne vois rien de cela avant le IVe siècle. avant l'époque constantinienne.
Pas... Ah non, d'accord, ça, donc il n'y a pas de pratique.
Il n'y a pas de pratique. Ça, c'est
culturel.
Si, je l'ai écrit, mais ça, c'est l'invention de Chateaubriand dans Les Martyrs qui a popularisé.
D'accord, alors ça, expliquez-nous, c'est-à-dire qu'au 19e, il y a une sorte de.
Moi, j'ai pris le problème par un autre angle, la mémoire chrétienne. Tous les grands livres de littérature chrétienne, les romans qui mettent en scène les catacombes comme des lieux de réunion, des réunions clandestines, les chrétiens réfugiés, les chrétiens enterrant leurs martyrs, persécutés, priant sur le tombeau des martyrs, portant l'Eucharistie, célébrant l'Eucharistie sur le tombeau des martyrs, c'est le 19e siècle. Covadis, Fabiola, et à l'origine donc les martyrs. Les martyrs de Chateaubriand, écrits sous l'Empire, juste après la Révolution. Et c'est Chateaubriand, incontestablement, qui a projeté les réalités de la clandestinité de la Révolution française, où là, effectivement, on a célébré en cachette, on a les cachettes de prêtres, comme on dirait aussi en Angleterre avant, sous Cromwell. Donc les cachettes de prêtres, le culte clandestin, tout cela. Il a voulu légitimer ces pratiques de la Révolution française avec des anachronismes formidables. Il nous montre les chrétiens allant se faire bouffer par les lions au Colisée, ce qui ne s'est jamais produit, autant que je sache, et béni par des prêtres, à l'époque de Néron, au 1er siècle, des prêtres mis dans la foule. C'est ce qui se faisait durant la Révolution, lors de l'exécution de Marie-Antoinette ou de Louis XVI. Ça, c'est jamais. Et même les prêtres ne se distinguaient pas, ça n'existait même pas en tant que tel. Donc, il a projeté ces réalités sur ces réalités contemporaines, pour lui, dont toute sa société avait souffert. Il leur a cherché un prototype, une tradition chrétienne, et il a exploité les catacombes dans ce sens. Et après, Fabiola, Cardinal Wiseman, tout ça, vont dans le même sens.
Finalement, Dominique Pierre, il y a bien ce poids légendaire de légende qui pèse sur les catacombes.
Ah bah oui, et puis en plus, je pense qu'il a dû se nourrir aussi de l'iconographie qui est née avec l'art du XVIIe siècle, justement, qui mettait en avant ce culte des martyrs et justement.
Oui, mais pas les catacombes, c'est plutôt les images des catacombes dans la peinture pompier, c'est plutôt le 19e.
Non, mais ce que disait Aurélien quand même tout à l'heure, cette idée qu'effectivement, dans le discours de la contre-réforme, l'exaltation du martyr qui combat pour la vraie foi, on a eu pendant tout l'art après le Concile de Trente, justement, la multiplication de ces images des martyrs qui, je pense, a dû contribuer à.
Le souvenir des martyrs qu'il ait commencé à se construire, puisque moi j'ai donc écrit sur les persécutions, il commence à se construire à la fin du IIe siècle, disons, mais pas dans les catacombes. C'est ça qui est intéressant.
Oui.
Jean-Michel Spitzer, alors on évoque un peu toutes ces différentes informations autour des catacombes. Vous êtes intéressé donc à la représentation du Christ.
Pas seulement d'ailleurs,
mais expliquez-nous en tout cas l'article que vous avez écrit dans Le Monde de la Bible s'arrête véritablement sur une figure très jeune, très juvénile du Christ. Alors, quelle représentation et pourquoi ?
Ah, ça c'est une histoire assez compliquée. On n'est pas très sûr.
On n'est pas sûr de la réponse.
J'ai remarqué surtout qu'avec une seule exception, qui est sur des plaques funéraires bien connues qu'on appelle les plaques des termes pour les spécialistes, le Christ n'est pas représenté barbu avant, disons en gros la deuxième moitié ou le dernier tiers du IVe siècle. Alors, je me suis demandé pourquoi, alors que le Christ barbu devient de plus en plus courant, si on peut dire, et sans entrer dans les nuances, pourquoi est-ce que d'autres images ont été préférées dans un premier temps. Alors, j'ai pensé, mais c'est une interprétation qui ne repose sur aucun texte, ni aucun. On n'a aucun texte qui parle de l'image du Christ. D'abord, on n'a aucun texte qui décrit physiquement le Christ dans les évangiles. On n'a aucun texte non plus qui décrit du 3e ou du 4e siècle qui décrirait des images du Christ. Alors, je pense que c'est la ressemblance, qu'on voulait éviter la ressemblance avec les dieux traditionnels. Quand on voit cette image qui se trouve sur la plaque funéraire à laquelle je viens faire d'allusion, où le Christ en plus est représenté avec une toge et sans, un manteau plutôt, et sans tunique sous la toge, donc on voit le torse nu. Il est difficile de savoir si on voulait représenter le Christ, un dieu comme Sérapis, Jupiter, enfin, et on peut aussi parler d'Asclépios, d'Esculape à cause des guérisons, ou même simplement un philosophe cynique. Donc cette image du Christ évoquait sans doute trop des images traditionnelles dont on voulait se
démarquer.
Mmh. Alors le Christ jeune, souvent on pense à Apollon, mais en même temps le Christ, ce Christ jeune ne ressemble pas vraiment à Apollon. C'est une figure qui est effectivement comparable sans doute à d'autres images traditionnelles, mais quand même il n'y a pas la même ressemblance que le Christ barbu avec les grandes divinités barbues. J'ajouterais aussi que on a l'impression il y a des héros jeunes, il y a sans doute au disons 3e siècle, puisque c'est à ce moment-là que ces images se développent, également dans les milieux païens, une mise en valeur de héros jeunes, de dieux jeunes, et donc ceci a également pu jouer. Voilà, en gros, alors on verra plus tard, si vous voulez, ou tout de suite, pourquoi les choses changent peu à peu. Moi, je pense que peu à peu, le christianisme devenant majoritaire, devenant vraiment la religion, même si les païens vivent encore longtemps, il y a des païens jusqu'au 6e siècle, mais la majorité, disons, l'imaginaire de tout le monde devient peu à peu chrétien, et donc on a moins cette crainte de la ressemblance. Mmh. Et de même, j'avais remarqué que pour les Christs barbus, ce sont les images de Christ debout dans la scène qu'on appelle la Traditio Legis, où il apparaît d'abord barbu et seulement un peu plus tard le Christ trônant. Qui, là aussi, ce qui montre que cette ressemblance avec les Zeus trônant, avec les Asclépios trônant, fait moins peur, même si l'écho de cette peur se trouve encore dans des textes grecs du milieu du 5e et du 6e siècle.
Ça marque toute une évolution. Aurélien Caillot, quand on... Bon, Rome... Dans ces premiers siècles, c'est effectivement de toutes les façons le centre de l'Empire romain. Est-ce que déjà, notamment par tout ce qui se passe autour des catacombes, c'est déjà aussi le centre de l'Église chrétienne?
Alors, le pape n'existe pas encore, véritablement. Il y a une première inscription qui parle d'un papa, mais c'est plus dans le sens de papa, justement, de,
et de père. Et l'évêque de Carthage, celui d'Alexandrie, se font appeler pape plus souvent que celui de Rome.
Voilà. Donc il y a une concurrence entre les différents patriarcats, Rome, Jérusalem, Alexandrie, Constantinople, etc. Donc non, il n'y a pas la figure du pape n'est pas encore là. C'est peut-être déjà à partir de la fin du 4e siècle.
Est-ce qu'il y a déjà quand même une prédominance par rapport à l'ensemble du bassin méditerranéen, des pratiques différentes?
À partir de la fin du 4e siècle, Damas peut-être commence à devenir une figure importante.
Non,
mais
il est tard. Il y a quand même une chose. Moi, je parlais d'un tropisme romain. Il y a quand même un monument et un texte important qui se vers 180-190 commence la tradition de l'invitation au pèlerinage à Rome, vénérer les tombeaux des apôtres, l'un au Vatican et l'autre sur la route d'Ostie. Là, on a trouvé le mémorial de Pierre sous la basilique Saint-Pierre actuelle et le site de la basilique Saint-Paul. Donc là, on a un texte dans une controverse hérétique. Venez à Rome, visitez les tombeaux des apôtres. Les mémoriaux apostoliques. Et les fouilles menées donc l'initiative de Pie XII après la dernière guerre ont montré ce qu'on peut visiter, avec beaucoup de difficultés, mais ce qu'on peut visiter, le mémorial apostolique sous l'actuel de la confession, donc, qui est daté par des tuiles ou des tuyaux, si je ne me trompe, par des tuiles estampillées, en tout cas, des années 180.
Mmh. Et donc, ça veut dire aussi, si j'ai bien compris, que les évêques de Rome commencent à se faire enterrer ensemble.
Oui, mais ils sont marqués épiscopos.
Pardon.
Successivement.
Alors, évêques de Rome. Ils sont évêques, ils sont épiscopos, ils se font enterrer à Calixte. dans la crypte des papes, dans le coin du 3e siècle, pardon. Mais ils se font enterrer aussi un peu partout. Certains papes sont à Priscille, d'autres sont à Calépodio, sur la Via Aurelia. Donc il n'y a pas de... Voilà,
donc il n'y a pas encore de prédominance de Rome pour l'Église universelle.
Et très peu finalement à Saint-Pierre, c'est très tardif, c'est beaucoup plus tardif.
Ça veut dire, Dominique Pierre, que les catacombes et le reste sont, font partie du monde chrétien qui est en train de s'élaborer, mais il n'y a pas de leadership, si je puis dire.
Ah ben, de toute façon, le monde chrétien antique est un monde de mosaïque. C'est-à-dire que c'est pas, souvent on projette l'idée d'une église pyramidale qu'on a connue ou dont on
ça
a les échos du 19e, 20e, ça va venir.
Mais pas tout de suite.
Parce que un autre sujet que je connais assez bien, c'est la question de la liturgie. Et on a pas du tout de choses unifiées. Il y a des choses qui se vivent, comme en Afrique du Nord, il y a des choses qui se vivent à Alexandrie, il y a des choses qui se vivent à Jérusalem. Il y en a
on
ne
célèbre
vivent...
pas à la même date.
Voilà,
c'est un grand conflit entre 80 entre les évêques d'Orient et l'évêque de Rome, par exemple.
Et on célèbre donc dans les maisons, simplement dans ces communautés, églises maisonnées.
Oui. Ce qu'on voit à Dura Europa, parce qu'on n'a pas d'exemple à Rome, de toute façon on pourra parler peut-être des tituliers après à Rome, mais donc on a grandi une salle de banquet pour faire une salle eucharistique.
Eh bien, on poursuit la conversation après la musique. Chant avec l'ensemble Venance Fortuna. Sur RCF, on parle des catacombes. Catacombes, les racines de la ville éternelle de Rome. On en parle avec Dominique Pierre, Marie-Françoise Basselet, Aurélien Caillot et Jean-Michel Spizer.
Grand angle, Christophe Hénin.
On a vu donc ces catacombes qui prennent beaucoup d'importance, en tout cas qui nous laissent des traces importantes. Aurélien Caillot, vous êtes intéressé, donc on le disait tout à l'heure, sur les 40 000 qui ont été répertoriées, sur les 40 000 traces qui ont pu être répertoriées, vous êtes intéressé aux épitaphes et voir un peu ce qu'ils pouvaient dire peut-être déjà de cette foi chrétienne, en tout cas de cette démarche dans les catacombes.
Alors, oui, donc moi je m'intéresse essentiellement aux épitaphes qui portent un décor figuratif essentiellement, ce qui représente à peu près 10% des inscriptions catacombales. Donc on a parlé tout à l'heure de la difficulté à savoir si telle catacombe, tel contexte hypogée en tout cas était païen ou chrétien. La question, ça va être de rechercher les critères identitaires, entre guillemets, d'une tombe, d'une épitaphe. Est-ce que c'était un chrétien, un païen, un juif qui était enterré là? En général, ceux qui posent les moins de problèmes, c'est les juifs, parce qu'ils mettent souvent une menorah et c'est bon. On sait qu'ils sont juifs. Par contre, les chrétiens, c'est plus problématique. Et les païens aussi, d'une certaine manière, parce que dans l'épigraphie funéraire païenne, finalement, il y a que 10% d'inscriptions païennes qui portent un contenu avec un message où on parle des dieux, etc. Et souvent, c'est les parcs, c'est des figures assez génériques. Les chrétiens, finalement, ne se débertissent pas trop de ça. Il y a très peu de professions de foi où on dit une telle, Apronianée, croit en Dieu, elle vivra dans le Christ, etc. Finalement, c'est très rare. Il y a 70%, on va dire, à peu près, des inscriptions qui catacombales qui nous sont parvenues, qui sont neutres, totalement neutres, qui se démarquent. ça c'est une autre, un coimétérien, ce qui veut dire dortoir, effectivement, c'est une autre problématique. J'ai pas très envie de rentrer dans ce débat là parce que notamment un personnage comme Ray Billard avait créé un peu la polémique en disant qu'on pouvait pas parler de coimétérien comme étant un cimetière mais plutôt une tombe. Et enfin, c'est toute la question sur qu'est-ce qu'une catacombe, est-ce qu'il y avait uniquement des chrétiens dedans, etc., etc. Donc à partir de là, quels sont les marqueurs du christianisme, de la chrétienté de ces gens-là? Ben finalement, seulement quand ils disent, parce que souvent ils disent seulement, je m'appelle tant, j'ai vécu tant d'années, je suis mort à telle date. Voilà. Et souvent, donc on dit, il est bien heureux, bien méritant. Et là, c'est une spécificité peut-être chrétienne, mais les Juifs l'utilisent aussi. On utilise in pace. On souhaite au défunt la paix. Mm-hmm. Et ensuite, on dira progressivement qu'il est en paix, qu'il dort dans la paix. Finalement, ce qui se passe, c'est que la première épigraphie chrétienne au IIIe siècle, on parle de laconisme archaïque pour les premières épitaphes, puisque on a juste quasiment le nom de la personne seulement et in pace parfois. Et au-delà de ça, après, ce qui va se passer, c'est que cette première épigraphie chrétienne, qui est assez simple, à partir de Constantin, où il y a un véritable changement à la fois dans l'iconographie mais aussi dans l'épigraphie, on va s'apercevoir que le formulaire va se gonfler, finalement on va se rapprocher un peu de ce qui se fait pour les tombes païennes, et on va commencer à parler de la vie terrestre de la personne, quel métier il faisait, etc. Et on retrouve ça dans l'iconographie, on voit notamment sur ces épitaphes, on voit des personnages à l'œuvre dans leur boutique, qui sont en orang, représentés en orang, mais qui portent des boucles d'oreilles, un collier, ils sont individualisés. Et on a plus ce qui était un peu un marqueur du début du christianisme, où on va se démarquer, chercher peut-être à se démarquer du paganisme ambiant, en utilisant des formules très très simples.
Mmh. Faut dire aussi que tout ça se développe petit à petit, parce qu'en fait, la sépulture, cette manière d'enterrer les morts est toute récente, voilà. Puisqu'au début de l'ère chrétienne, voilà. On en est encore à la crémation des défunts.
Voilà. C'est parce qu'on passe effectivement d'une pratique funéraire, peut-être sous l'influence des religions orientales qui vont devenir très importantes à Rome au tournant du deuxième siècle, on passe finalement de la crémation à l'inhumation. D'où le manque de place. Et d'où la nécessité d'en trouver,
de creuser,
en creusant d'abord sous les mausolées qui étaient déjà en place le long des voies consulaires, le long des grandes voies, la Via Appia, la Via Latina, etc. Et ensuite sur certains terrains. Et on va utiliser des réseaux hydrauliques, des citernes qui étaient déjà en place pour faire ces premiers hypogées qui vont devenir ensuite des catacombes. Et au fur et à mesure que les gens vont se christianiser, surtout à partir de Constantin, où il va y avoir un peu un phénomène de masse, de mode aussi, dans ces conversions qui vont être un peu superficielles parfois, et finalement on va garder les mêmes habitudes, notamment pour ce qui relève des libations funéraires, des rites funéraires, où on va continuer à les manger, à les boire sur la tombe du défunt, à faire un trou dans la dalle pour y creuser, pour y verser du vin, du miel, etc., de l'huile, parce que ça se faisait en contexte païen et que les chrétiens continuent à honorer leur mort de la même manière.
Le sarcophage de Paul à Saint-Paul-en-les-Murs a des trous, justement, voilà. Une orifice voilà. Pour faire passer de l'huile.
Si on écoute les évêques, encore une fois, cette pratique est terminée à partir d'Ambroise, à partir d'Augustin, mais en fait, elle va continuer pendant des siècles, les traces archéologiques le prouvent.
Jean-Michel Spizer, on a parlé des représentations, on pourrait développer encore beaucoup de choses, mais simplement, toute cette iconographie, est-ce qu'elle est simplement mémorielle ou aussi déjà une sorte de profession de foi, notamment à la résurrection?
Je crois qu'il est difficile de faire la distinction. Elle est nécessairement les deux à la fois. tout simplement. Alors, la résurrection en tant que telle, on peut guère dire qu'elle est représentée. Il y a des images du Christ où le contexte permet de voir très clairement que le Christ n'est plus représenté dans sa vie terrestre, mais qu'il est représenté dans un contexte céleste, si vous préférez. Enfin, l'exemple le plus fameux de cette époque, on sort des catacombes, c'est la mosaïque de l'abside de Sainte Pudentienne à Rome. Mais il y a par exemple Je pense à une peinture importante des catacombes, sans doute une des dernières peintures des catacombes, pas la toute dernière, mais une des dernières en tout cas dans la catacombe des Saint-Pierre et Marcelin, où on voit le Christ trônant entre Pierre et Paul, qui n'a rien à voir avec sa vie terrestre, ou des scènes sur les sarcophages à partir de 330, avec cette représentation très discutée et qu'on appelle toujours la traditio legis. Là aussi, ce n'est pas une scène de la vie du Christ, c'est le Christ transfiguré entre guillemets, je dirais, d'un point de vue théologique, mais pas transfiguré dans la représentation. Il est représenté comme les personnages autour de lui, mais il est évident que ce n'est pas le Christ dans sa vie terrestre qui est représenté. Donc la résurrection, si vous voulez, est impliquée, mais il n'y a pas d'image narrative montrant la résurrection. D'ailleurs, même plus tard dans l'art byzantin, c'est très rare. Même qu'à cette époque, comme tout le monde le sait, il n'y a pratiquement pas de représentation de la crucifixion, avec une ou deux exceptions, et qui sont plutôt du 5e siècle, sur la porte en bois de Sainte Sabine, par exemple, toujours à Rome.
Ça veut dire, Dominique Pierre, que là, on parle des catacombes parce que effectivement, il y a cette conservation extraordinaire dans le sous-sol de ces traces. À partir de quand, dans Rome, la ville, j'ai envie de dire en surface, il se passe quelque chose de similaire, c'est-à-dire de construction d'églises. On parlait des premières communautés qui étaient plus dans des maisonnées, mais quand est-ce que c'est le troisième siècle?
Ça, c'est avec Constantin, donc dès le début du quatrième siècle, quoi. Hein, ça va être le début d'une grande modification. Je pense que dans l'histoire de l'Église, c'est une rupture. Il y a avant Constantin, il y a après Constantin, et c'est un autre monde qui naît, quoi, qui n'a plus rien à voir avec ce monde. Alors souvent, on veut calquer justement ce monde des catacombes et de l'Église
comme étant souterrain,
voilà, sur ce modèle-là. Mais c'est vraiment ce qu'on perçoit, ce qu'on connaît vraiment de l'Église, c'est souvent après Constantin. Alors là, effectivement, les édifices vont grandir. L'art les images vont se développer. Jean-Michel Spitzer parlait là justement de Sainte-Sabine, de Sainte-Pudentienne. On a les premières traces. Ce qui est extraordinaire à Rome, c'est que justement on a ce panorama extraordinaire de l'image chrétienne qui commence dès le 3e, 4e siècle, et puis on peut suivre siècle après siècle, parce qu'on a de l'époque carolingienne, de l'époque romane, gothique, renaissance et baroque, on a tout un parcours dans l'image chrétienne qui est passionnant à suivre.
C'est ce qu'on appelle aussi la tradition qui passe d'une année à l'autre. Aurélien Caillot, alors on arrive au terme de l'émission. Il n'y a pas qu'à Rome qu'il y a des catacombes. En quoi celles de Rome, sur lesquelles vous le travaillez, sont particulières?
Ben, elles sont particulières par leur étendue. Il y a, on disait tout à l'heure, il y a 6 catacombes qui sont ouvertes au public. Celles de Saint-Pierre et Marcellin sont ouvertes depuis peu. Il y en a 60 en tout à Rome à peu près. Moi, j'en ai vu que les 3/4. C'est déjà pas mal.
Ce qui représente déjà quand même quelques heures de visite.
Elles sont donc importantes par leur étendue, parce qu'on est sur du tuf, de la roche volcanique. Il y avait des carrières de pouzzolane, donc elles sont très friables et très faciles à creuser. Ce qui est pas le cas, par exemple, à Syracuse ou à Malte, où là, c'est de la roche. Donc finalement, elles vont être un peu plus limitées. Par contre, même à Naples, les grandes catacombes de Saint-Gennaro, qui étaient, elles aussi, si je ne m'abuse, d'anciennes carrières, elles sont un peu plus limitées par rapport à des catacombes comme Domitille, par exemple.
Et dans ces catacombes hors de Rome, les autres, est-ce qu'on trouve la même expression artistique, j'ai envie de dire, et aussi de foi?
Oui, parfois, oui. En général, de manière générale, oui. On parlait tout à l'heure de Dura Europos, où on retrouve finalement les mêmes figures qui sont liées finalement peut-être à la catéchèse. Effectivement, on retrouve ça à Naples. Après, il y a des variations suivant les endroits, notamment au niveau du formulaire épigraphique, mais aussi de l'iconographie. Mais dans l'ensemble, il y a un corpus iconographique, un corpus épigraphique commun, avec des variantes.
Avec des variantes, et puis en tout cas aussi une sorte de point central avec Rome, j'imagine, qui est quand même aussi plus particulier Tous les autres, non,
oui,
pas tellement.
Oui, Rome, oui, Caput Mundi. Donc, effectivement, okay. Beaucoup de gens passaient par Rome. C'était un carrefour. Donc, ils y allaient, ils venaient. Voilà, ils prenaient des exemples, effectivement.
Et ben voilà, nous n'avons plus qu'à y aller aussi à notre tour. Merci à tous les quatre. Donc, je rappelle simplement, pour prolonger l'émission, la revue du monde de la Bible avec Rome, mystérieuse catacombe. Et puis aussi un reportage sur... les trésors de la cathédrale d'Albi, les chefs-d'œuvre du musée de Nantes qui a été rénové. Le livre de Marie-Françoise Basselet, Jésus, dictionnaire historique des évangiles, s'est paru chez Omnibus l'an dernier. Et puis Images du Christ des catacombes au lendemain de l'iconoclasme, c'est le livre de Jean-Michel Spizer paru chez Drose en 2015. Merci à Pierre Samanos qui était à la régie. Et bien, on se retrouve la semaine prochaine, à moins que vous ne partiez visiter les catacombes à Rome. Sinon, on se retrouve pour d'autres sujets. Bonne soirée. Ah.